Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons cette série concernant Jésus-Christ, la lumière, jusqu'au retour de Jésus-Christ, le Messie. Nous arrivons à l'étude numéro 26. Aujourd'hui, notre titre sera « L'abîme, le royaume de ceux qui sont désespérément mauvais ». Nous continuons donc le témoignage, ce récit fabuleux de Marietta. Pendant que je réfléchissais à ces choses, je passais inconsciemment de cette sphère de ténèbres à un lieu dont je ne pouvais apercevoir que l'immense solitude. On n'y voyait ni soleil, ni étoiles. Des ténèbres plus épaisses m'entourèrent et je sentis que ma perte était consommée. J'allais bientôt me trouver en compagnie des esprits de ces royaumes fantastiques de l'horreur. Au moment où l'idée de n'avoir plus aucune espérance m'entraînait à l'agonie, j'entendis lointain une voix douce et mélodieuse qui disait « Regarde, regarde à Jésus-Christ ». Il est la vie de l'âme. En un instant, s'éleva en moi un sentiment de révolte à la pensée d'adorer ce Jésus crucifié. C'est alors que, brutalement, tout ce qui semblait encore me soutenir disparut. Une fois de plus, je descendis comme d'une hauteur vertigineuse dans un abîme peuplé d'êtres dont je ne découvris pas tout de suite la condition, mais qui, en fin de compte, se révélèrent plus désespérés encore que ceux auxquels je venais juste d'échapper. Ils se rassemblèrent autour de moi en me félicitant pour mes doutes sur la divinité du Fils de Dieu. Enfin, l'esprit d'un géant intellectuel m'aborda pour me parler. La religion de la Bible, tellement vénérée par ceux qui vivent dans les ténèbres et sont sous-développés, n'est autre qu'une pauvre façade spirituelle. Le Dieu de la Bible, que les chrétiens appellent le Sauveur du monde, n'est finalement qu'un homme, comme tous les autres. La foi religieuse limite le champ d'activité de la pensée humaine, entrave la noblesse de l'intelligence et empêche la progression de la race. Ceux que tu viens de visiter sont une classe d'esprits qui, aveuglés par les rêveries trompeuses des religieux de la terre, sont entrés dans le monde des esprits sans être évolués. Et c'est pourquoi ils persistent à se cramponner à l'idée de la rédemption par Christ. Ils ont l'air de souffrir, mais leur souffrance n'est que imaginaire. La lumière finira par les atteindre. Alors, ils seront capables de renier la folie de leur éducation religieuse, à laquelle, bien que la partie la plus raffinée de leur esprit la désapprouve, ils s'accrochent avec un irrésistible désir. Nous, nous sommes libres. Avec nos capacités intellectuelles sans bornes, nous contemplons la magnificence et la gloire de l'univers peuplé. Nous jouissons de toutes les richesses des sublimes attributs de la pensée. Et ainsi, et non par la religion de la croix, nous nous élevons jusqu'aux sphères les plus hautes de la connaissance intellectuelle pour admirer la grandeur en marche des choses terrestres. Marietta, car tel est ton nom, nous t'avons vu quand les ténèbres t'enveloppaient et nous avons bien remarqué que pendant un instant, à cause de la force de ton éducation, tu as failli faire monter une prière pour être sauvé dans le nom de Jésus. Nous avons aussi entendu la voix qui t'a parlé d'en haut, disant « Regarde à Jésus ». Pourtant, cela ne t'a pas sauvé. Apprends donc que c'est du développement inné de ton être que vient le salut. Que vois-tu, Marietta? Abandonne tes idées sur la vaine religion de la Bible et contemple les merveilles de cette sphère d'existence. C'est ici la seconde sphère. Autour de toi se trouvent réunis des esprits venant des diverses sphères de la terre, des cerveaux dont la force intellectuelle ne pouvait pas céder à l'influence d'une religion imaginaire. Ils ne se sont pas laissés impressionner par les vêtements des prêtres, n'ont pas chanté les notes creuses de leur psalmodie, ni la musique insipide de l'Église. Ceux-ci chantent la nature, dont ils sont une noble partie, et unis en cela, ils montent l'octave de l'harmonie mentale progressive. Oui, ici, l'esprit qui me parlait devint extrêmement agité. Le voile nébuleux qui l'enveloppait fut secoué par des chocs successifs qui firent se convulser son être tout entier. Il se tordit sous leur force. Je ne pus voir d'où il provenait, mais je fus complètement terrifié en observant la scène qui changeait entièrement à chaque secousse successive. Celle-ci s'accompagnait de flashs semblables à de larges draperies de lumière violente qui jouaient sur le voile de nuages qui lui servait de vêtements. Je pus me rendre compte qu'il combattait intensément pour dominer un pouvoir sur le point de le contrôler. Chacune de ses énergies s'exerçait au maximum de sa capacité afin de repousser le flot qui allait l'emporter. Soudain, j'entendis un gémissement, comme l'angoisse de quelqu'un qui sombre dans un désespoir total, puis cède à cette force invisible. Alors s'ouvrit devant moi un vaste champ de vision. J'aperçus là, d'un seul regard, toutes les espèces imaginables de vices, de formes, de modes de la société humaine, ses clans et ses gouvernements. J'ai vu toutes les phases possibles de l'adoration sous toutes ses formes exprimées dans toutes les religions, depuis le paganisme jusqu'à la mise très respectable de ceux qui fréquentent les églises pour n'apporter qu'une adoration des lèvres au nom de la sainte religion de la croix. Tandis que se déployait cette vision, j'entendis venant de très haut une voix qui me dit « Marietta, ne crains pas, mais observe ce que est un pandémonium. Là se trouvent ensemble tous ceux qui se sont trompés eux-mêmes, ceux qui ont mis leur espérance dans la vaine philosophie, ceux qui ont carrément méprisé Dieu. Là se dressent en forme de spectre les fausses religions de la terre. Là, l'hypocrisie dévoile son hideuse nature et la religion de façade s'exprime dans son propre langage. Ici sont découverts les loups à forme humaine qui se présentent vêtus de peau de brebis pour avoir pouvoir ainsi assouvir leur cupidité auprès des gens humbles et crédules. Attention ! Écoute le chant sauvage qui éclate des milliers de voix de ceux qui sont assis dans les galeries. Ils ont jadis chanté sans cœur des cantiques destinés à glorifier le Dieu vivant. Écoute le son discordant de l'orgue gigantesque autour duquel ils se rassemblent. Regarde, ils se lèvent, ils observent leur attitude et tâchent de comprendre les paroles qu'ils prononcent. En essayant de décrire cette scène, je réalise très fort mon incapacité à le faire. Nul ne pourra en saisir la réalité sans l'avoir vue personnellement. Tout ce que je peux dire, c'est que chaque système mauvais qui prévaut chez les humains apparaissait ici en une structure organisée, se déroulait en une scène parfaite. Chaque esprit était comme un acteur jouant le rôle qu'il avait rempli étant dans son corps. Je sus que des bénédictions qu'ils espéraient, tout était irréel. Cependant, chacun luttait pour trouver une satisfaction, mais par le fait même de cette atroce comédie. Celle-ci se retournait contre l'âme assoiffée dans une horreur indescriptible. Pendant que je les regardais, les occupants des vastes galeries se levèrent. Ils se mirent à chanter, alors la voix rauque de l'orgue spectral rendit un son discordant, tandis que, note après note, ce qu'ils essayaient de chanter tombait de leurs lèvres en des tons qui se moquaient de leur effort. J'avais pitié d'eux dans mon âme lorsque je les vis se laisser tomber dans un complet désespoir. Pourtant, je m'apercevais bien qu'il y avait un but dans leur mouvement. Au-dessous d'eux se tenait assis un auditoire difficile à satisfaire. Devant l'auditoire, un homme se tenait debout en vêtements sacerdotaux, une sorte de monseigneur dans une chaire gothique. C'était quelqu'un qui avait déshonoré la cause du Rédempteur par l'hypocrisie, par amour de la vaine gloire, et qui avait fait du ministère une parole vaine en ne proclamant que des lèvres l'amour et les dons de la grâce. Ce représentant de ceux qui spéculent dans le domaine de la religion agissait en un simulacre de dignité de sa profession scléricale. Devant lui, un volume était ouvert et il essayait d'y lire quelque chose, mais ses efforts restèrent vains. Sa voix était aiguë et perçante, et ses mots sortaient inarticulés. On vit ses traits se déformer, et il se mit à se tordre comme en agonie. Il essayait pourtant encore de lire, mais avec le même résultat, ce qui fit croître encore sa détresse, jusqu'au point où finalement il explosa, employant des expressions violentes, en se maudissant lui-même et tous ceux qui l'entouraient. Puis il s'adressa en blasphémant à l'auteur de la vie, accusant Dieu de tout ce qui allait mal et d'être la source de tous les malheurs. Il alla même jusqu'à dire qu'il souhaitait rassembler la force de toute l'intelligence créée afin de maudire le Créateur de l'univers. Ses jurons, son comportement, sa passion effrénée le firent apparaître si désespéré que je sentis la crainte m'envahir. La peur qu'il n'ait vraiment le pouvoir d'accomplir, selon ses paroles, une œuvre de destruction massive dans quelque direction qu'il choisissait, s'empara de moi. Bientôt, cependant, ma frayeur fut soulagée en observant la disparition soudaine de toute sa vigueur, et je vis que lui aussi était limité dans son pouvoir. En plus, je m'aperçus qu'il était soumis dans une grande mesure à la volonté de son auditoire. Un regard sur la foule en face de lui suffit pour révéler la cause évidente de son angoisse. Il, au pluriel, se tenait là, avec des visages exprimant la haine, mêlés d'une satisfaction folle et farouche. Il se moquait de ses efforts inutiles, jouissait avec un plaisir diabolique de voir le poids de ses souffrances atroces. Oui, il se délectait littéralement de l'acuité de son désespoir, mais d'un plaisir étrange, comme celui qu'on éprouve en grattant une mauvaise plaie, alors que cela conduira à l'aggraver. Le faux prêtre finit par s'effondrer, alors son visage prit l'expression d'une horreur indescriptible. Son être se tordit dans tous les sens. Autour de lui, des flammes éclatèrent en flashs et toute son expression fut le reflet d'une conscience aussi tourmentée qu'un volcan en effervescence. Son entière apparence parlait d'une agonie égale à la pire conception de l'enfer implacable qui est réservé aux pécheurs. Alors, là, je me souviens de la parole de Jésus. « Et ils s'en iront dans les ténèbres, a-t-il dit, du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint pas. » Saint Matthieu, chapitre 8, verset 12. Tandis qu'il gisait au milieu des flammes de ses passions impures, quelqu'un de l'auditoire se leva et lui parla ainsi. « Démon des ténèbres, fils d'hypocrisie, trompeur sans pareil, ton enfer est bien celui d'un prédicateur sans conscience. Tu n'entendras jamais et tu n'endureras jamais assez de souffrances » qui soit assez cruel pour avoir fait de la religion et des hommes, un marchandage. Oui, c'est à cause de cela. Tu as habité les temples de la gloire humaine. Recevons l'adoration des hommes. Tu t'es enveloppé des vêtements du bien-être au prix des âmes, car tu n'as pas cherché à atteindre les cœurs perdus par la vérité rédemptrice, elle qui nous aurait pourtant sauvés. Tu as préféré chercher ce qui plaisait à nos oreilles, ce qui berçait notre imagination. Mais maintenant, te voici tourmenté. Mais lève-toi, faux docteur, tiens-toi debout, et dans tes vêtements soyeux, montre-nous la gravité de ton faux apostolat. Dis-nous donc des choses agréables. Dirige les mouvements de cette vaste galerie où l'on fait semblant de chanter. Arrête des blasphèmes, cesse de lancer tes malédictions, car voici ton Créateur est juste. N'espère pas le faire descendre de son trône. Tu t'es moqué de son auguste majesté. Sa gloire aurait dû briller à travers ta vie, et par cette lumière, des milliers auraient pu être amenés à chercher sa face. À l'écoute de ce violent reproche, le misérable chercha à s'échapper, mais celui qui parlait poursuivit: « Non, 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 hypocrite, même si tu le voulais, tu ne pourras jamais t'enfuir d'ici. Fixe bien les yeux sur cette foule immense de gens qui souffrent et demande-toi pourquoi. Bien qu'ils aient péché et qu'ils appartiennent à chacun de se tenir debout ou de tomber devant son maître, peux-tu les regarder en paix avec un sentiment d'innocence? As-tu combattu pour les amener à Dieu? Non, 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 mais plutôt tes discours savants et tes exposés élaborés de l'Écriture sainte, enjolivés d'art poétique, que tu prononçais dans un déploiement d'éloquence, ne les ont-ils pas bercés dans un sommeil plus profond, tous ces esprits somnolent pendant que toi, tu couronnais ton front de laurier terrestre. À ce point-là du discours, l'esprit interpellé s'écria: « Arrête! Oh, arrête! Épargne-moi, car je souffre les tortures d'un remords impitoyable. Ô terrible rétribution, tais-toi donc, ne déchire pas plus ta victime. Je reconnais que mon supplice est juste. Dans ma vie, je n'ai cherché que à plaire aux hommes. J'ai joué avec leur âme et dans mes écrits, j'ai parlé sans conviction des choses éternelles. J'ai formulé mes prières selon l'intelligence humaine et interprété le texte sacré de façon à être uniquement agréable aux gens capricieux, égoïstes, à celui qui se vante de connaître les choses saintes, à l'usurpateur des droits humains et à l'oppresseur. Ô horreur, l'effroi d'une nuit éternelle dans un cuisant remords qui envahit maintenant mon esprit. J'entends la voix des lamentations. Je vois l'affolement des esprits trompés. Tout cela me hante. Si je cherche à fuir, je vois se rassembler devant moi comme des fantômes qui me crient. C'est toi qui étais responsable d'être notre guide religieux. Je suis maintenant hanté par la multitude des mots suspendus au-dessus des âmes qui ne trouveront ici jamais de repos. Mes paroissiens et tous ceux-ci me rendent fou par leur amère imprécation. Des péchés sacrés comme des démons, chargés de m'infliger une peine sans fin, se dressent au fond de ma mémoire. Épargne-moi donc un enfer encore pire. Et pendant ces supplications, l'auditoire tout entier s'était levé et se moqua de son agonie. À la fin, l'esprit qui lui avait parlé reprit sa harangue en ces mots. Tu savais bien que nous mettions notre plaisir à être agréable, et lorsque nous cédions à l'attrait des désirs impurs qui nous entraînaient vers la mort, tu ne nous as pas repris selon la Sainte Bible. Il y avait parmi nous des homosexuels, des lesbiennes, des qui vont même jusqu'à détourner des enfants innocents. Tout cela, tu nous as fait croire que c'était normal. Oh, ce livre sacré, oui, ce livre sacré, don de Dieu pour guider les égarés vers les lumineuses demeures du ciel. Ce livre, par les fausses interprétations de celui qui cherchait ce qui lui plaisait, dont le cœur n'aimait pas les choses de Dieu, est devenu le passeport pour ce lieu de damnation. Chacun retrouve ici ses péchés sous des formes vivantes, des modes du monde dont leurs plis aux couleurs criardes emprisonnent l'esprit comme d'une innombrable quantité de flammes de feu. Ici, Mammon, spectre à figure de Dieu, se tient assis sur les nuages de la mort qui flotte au-dessus de l'abîme. La loi de la vie étant inversée, trouve son sommet dans les fantasmes dans lesquels tu te débats. Tu as tout fait pour l'amour de la gloire hypocrite. Ta forme de religion ressemble au sépulcre blanchi dont seul l'aspect extérieur est beau comme l'église sans tache, celle qui reflète la gloire de la Jérusalem spirituelle depuis le monde de lumière qui est en haut. Mais ton cœur était le siège de l'orgueil, de la convoitise, une cage de rapaces, un antre de vipères, oui, un sépulcre plein d'ossements humains, d'où toute chair a disparu. La doctrine théologique sans vie, tout ce que laissent en héritage les gens religieux de façade. Ne maudis pas ton Créateur, c'est l'heure de la moisson. Prête l'oreille, prêtre, à ces paroles de l'Écriture sainte, qui sont si souvent tombées avec indifférence de tes lèvres. Celui qui sème pour la chair, sache qu'il moissonnera de la chair, il moissonnera la corruption, selon Galates 6, verset 7. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. De quel accent ne résonne-t-il pas ces passages de l'Écriture sainte dans les chambres d'airain où se trouvent rassemblées les âmes au royaume de la nuit. Ils retentissent en passant d'un esprit à un autre, touchant en chacun le sens de son immortalité, l'amenant à un maximum de tension par l'effroi qu'accentue l'obscurité et les visions hallucinantes qui se dressent telles des fantômes venant du royaume de la mort. Non, 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 faux prêcheur, que Dieu soit reconnu pour vrai. C'est le péché qui a fait de nous ce que nous sommes maintenant. Nous subissons les conséquences de la violation de la loi. Oui, la loi de notre vie. Et comme il prononçait ces derniers mots, l'esprit qui parlait fut saisi d'un horrible tremblement. Il devint de plus en plus agité, jusqu'à ce que, dans un violent soubresaut, lui et toute l'immense assemblée tombent comme morts. Ensuite, perdant toute individualité, ils ne présentèrent plus qu'un grand corps secoué de convulsions. Au-dessus s'éleva une épaisse couche d'atomes mouvantes, si dense qu'elle apparut comme faisant partie de la masse gisant en dessous. C'en était bien trop tout cela. Incapable de supporter plus longtemps la vue de ces scènes effroyables, je reculai en m'écriant « Mais n'y a-t-il pas un Dieu de miséricorde ? Peut-il voir ces choses et ne pas sauver ?»« Oui, 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 dit une voix au-dessus de moi. Il y a un Dieu de miséricorde. Et ce Dieu regarde les pécheurs avec des yeux remplis de compassion. La miséricorde languit après eux. N'as-tu jamais lu que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils bien-aimé et unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Saint Jean chapitre 3 verset 16. Mais bien que le salut soit offert au monde et que le messager du ciel plaide avec les pécheurs, des millions refusent et un plus grand nombre encore font profession d'être croyants tout en contestant la vérité essentielle qui touche à la rédemption de l'homme. Le péché accepté et toléré entraîne le malheur du pécheur. Un grand nombre ne veulent pas abandonner leur mauvaise voie tant qu'il en est temps et finissent par tomber dans la plus totale détresse pour avoir violé la loi de pureté et d'amour. N'aie pas peur, Marietta. Tu as vu dépeinte devant toi une partie des conséquences du péché sur les esprits des hommes. Les souffrances spirituelles, elles dépassent tout ce qu'on peut décrire. Il n'est pas possible que l'intelligence en reçoive un reflet exact à travers des images et des paraboles. Ici, Marietta reçoit enfin des explications exactes. Celui qui s'est adressé à toi en premier représente cet esprit antichrist qui cherche toujours à aveugler la perception spirituelle par les figures brillantes des faux raisonnements et derrière lesquels se cache toute une misérable réalité et discorde des affections contre nature, des désirs impurs égoïsme, la convoitise, la rapine, la fausseté du cœur, la cruauté, le meurtre, le rejet de Dieu, le refus de sa grâce rédemptrice, les sacrilèges et les blasphèmes. Il s'efforça d'attirer ton attention dans la direction opposée pour que tu n'aperçoives pas dans quel état sont ceux dont le cœur n'est pas sous le contrôle de l'amour de Dieu. Son échec signe la faillite de tous les moyens essayés et tous ces moyens qui ont été essayés en dehors de Christ pour sauver l'âme, l'âme des influences mortelles qui corrompent par le péché tous les cœurs qui sont non régénérés. À la suite, c'est une scène donnant tous les détails des formes du vice qui commença à se dérouler. Mais comme il t'aurait été intolérable de la voir dans sa totalité, alors s'est interposé le tableau de la galerie de choristes. Ceux-ci représentent les gens du monde offrant leur musique aux divers dieux qu'ils se sont choisis, de quel nom et genre qu'ils puissent être. Dans leur cœur, ni crainte, ni amour envers le seul vrai Dieu dont ils se moquaient en le servant uniquement des lèvres et jamais de leur cœur, âme et esprit. Dans la chair était représenté un faux docteur supportant les conséquences terribles de l'hypocrisie en matière de religion. C'est sa fausseté qui l'a précipité dans cet abîme affreux. Devant lui se trouvaient des gens, ceux qui adorent au nom de la croix, mais sans avoir la crainte de Dieu. Ils passaient aux yeux des hommes pour de vrais adorateurs, mais leur cœur était très éloigné de Dieu. Ils se complaisaient eux-mêmes dans leur dévotion. Ils se sont choisis un prédicateur qui, de son côté, n'a cherché qu'à se glorifier lui-même devant eux en cédant à leurs caprices. Ce prédicateur s'est appliqué à leur représenter la grande vérité comme on la comprend avec l'intellect, selon la culture et les impressions reçues dans le monde extérieur. L'échec de ces efforts démontre l'impossibilité pour quiconque de trouver la vraie, la véritable satisfaction dans ces fausses méthodes. L'esprit qui s'est adressé à lui représente ceux qui, à tous les échelons, ont placé leur confiance dans de faux docteurs, en faisant eux-mêmes peu de cas de leur intérêt spirituel. On vit ainsi la discorde qui règne parmi ceux qui ne sont pas unis d'une union véritable. Ils rejettent la responsabilité de leurs péchés les uns sur les autres. L'esprit qui a fait référence à la justice de leurs conditions comme conséquence naturelle de la violation de la loi témoigne qu'ils ont conscience, oh oui, de leur culpabilité ainsi que de la bonté de Dieu, ce que comprennent tous ceux qui se réveillent de leur torpeur spirituelle pour réaliser ce que la très sainte loi de Dieu attend d'eux. Oui, ceux qui se ressemblent s'assemblent. La terrible contorsion de douleur qu'éprouva l'esprit de mon Seigneur devant le sombre tableau de ses œuvres passées montre que ceux qui ont suivi leurs propres désirs pendant leur vie, quand ils se rencontrent dans l'au-delà, se jettent de grandes vérités les uns à la face des autres, par le moyen des pensées et des mouvements de leur être. Leur chute finale, avec leur fusion en un seul esprit, démontre que l'inclination au péché est inhérente à sa nature. Cela montre également que la loi de sympathie ou d'affinité magnétique fonctionne même dans les esprits humains séparés de leur corps. Selon cette loi, les mêmes types de pensées et d'affections s'attirent mutuellement, puis par effet d'accumulation, les éléments dominants voient leur emprise et leur élan s'accroître de telle sorte que chacun souffre de la part des autres et les fait souffrir. Le nuage mouvant au-dessus d'eux illustre encore l'atmosphère de réflexion qui remplit la vaste arène de la discorde spirituelle. Finalement, Marietta, la scène du prêtre face à sa congrégation, ensemble avec les faux docteurs des écoles de la vaine philosophie, est un exemple de cette sainte parole de l'Écriture qui dit « Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux. » Saint Luc, chapitre 6, verset 39. Marietta, tu ne peux en supporter davantage, mais garde gravé en toi, par cette dure leçon, la profonde vérité, que le salaire du péché, c'est la mort. La voix qui me parlait s'arrêta lorsque j'entendis un ange de quelque chorale céleste me dire « Marietta, monte maintenant ici ». Je me mis aussitôt à monter, entrant dans un nuage de lumière qui s'éleva doucement. En son pavillon, mon esprit trouva le repos. Quel changement! Quel merveilleux changement! L'instant d'avant, dans la crainte et la stupeur, j'observais une foule excitée et misérable se vautrant dans la folie de ses passions enflammées, passions auxquelles chacun, quand il était dans son corps, s'était livré avec une extrême indulgence. Ici, ils emportaient la peine. Là se trouvaient manifestés au grand jour les effets du mal sous toutes ses formes, ceux des habitudes démoralisantes, des motivations secrètes, de l'iniquité cachée. Ici, contention, murmure et blasphème horrible éclataient, tandis que bourreaux et victimes étaient entraînés ensemble, enchaînés par les éléments dominants, ceux de leur propre nature pervertie. Oui, le péché produit la mort. En voyant dans quelles conditions ils étaient, j'avais appris que le péché produit la mort et que le bonheur ne vient pas avec la désobéissance, mais par une foi non sophistiquée, la foi toute simple en Jésus-Christ comme rédempteur, celle qui pousse à la véritable adoration de Dieu, qui vient d'un cœur brisé et d'un esprit contrit. J'ai appris également que l'art de la tromperie est le principe même du monde des ténèbres, source de maux innombrables. Ils tissent aussi la couverture servant à camoufler la faim qui attend les menteurs de même que les fruits que porte le vice. Et pourtant, il me fut révélé cette importante vérité, si habilement conçue, conçue que soit la tromperie, elle ne peut rester voilée à l'heure de l'épreuve. En effet, celui qui s'est employé à exalter la gloire de la nature, qui a cherché en déployant l'éventail de ses vertus, à détourner les hommes de la croix en offrant la vie et la paix par d'autres moyens, celui-là est impuissant à cacher le drame qui éclate dans la vaste arène où se trouvent rassemblés ceux qui n'aiment pas Dieu, qui méprisent la sainte religion de Jésus-Christ, qui est la seule source de salut des humains. N'oubliez jamais que le ciel est pour ceux qui le veulent d'un cœur sincère. J'étais à réfléchir sur toutes ces visions quand une lumière nouvelle arriva sur moi. Je me retournai pour voir d'où elle venait, quand voici, au-dessus de moi, je vis un être plein de grâce, l'esprit d'une femme rachetée, vêtue d'un vêtement brillant comme le soleil, reposant dans la gloire qui l'environnait. Son visage était rayonnant de céleste bonté et calme. Elle demeura au centre de cet éclat divin. Elle parla de sa voix et elle me ravit. « Sois en paix, me dit-elle, esprit, sois en paix, qu'aucune anxiété ne t'accable. Chaste tes pensées, ce que tu viens de voir. Pour tout cœur qui le veut, Dieu a dans le ciel une demeure préparée. Et quiconque cherche trouve dans le Seigneur une aide efficace au temps du besoin. Ceux que tu as vus sont dans l'élément qui faisait leur plaisir quand ils étaient dans leur corps. De même que celui qui se jette d'une hauteur vertigineuse doit supporter la souffrance que causent ses blessures, de même celui qui vit et qui meurt dans le péché en reçoit le salaire. C'est la loi de l'existence. Je répète, pour tout cœur qui le veut, Dieu a dans le ciel une demeure préparée, et quiconque cherche trouve dans le Seigneur une aide efficace au temps du besoin. Ceux que tu as vus sont dans l'élément qui faisait leur plaisir quand ils étaient dans leur corps. De même que celui qui se jette d'une hauteur vertigineuse doit supporter la souffrance que causent ses blessures, de même celui qui vit et qui meurt dans le péché en reçoit le salaire. Ça, c'est la loi de l'existence. Marietta, calme-toi. Car voici que descend le concert d'une musique céleste. Cette harmonie, oh, qu'elle est douce, avec quelle paix elle se déplace sur les chemins du ciel. Elle approche de nous. Marietta, son volume augmente dans la brise céleste. Ses notes sont des louanges pour notre Rédempteur. Des chants célestes éclatent de tous côtés. Regarde en haut, Marietta. Nous approchons d'une cité où habite la justice. Aucun impur ne peut jamais y entrer. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Aucun esprit menteur ne polluera jamais ces saints temples. Écoute, petite sœur en esprit, un ange gardien va te parler depuis les saintes montagnes. Le pouvoir d'attraction du mal est une réalité. Alors me parvint une voix qui dit : D'où viens-tu, Marietta ? ne viens-tu pas de quitter le monde de tristesse mortelle? Pourquoi es-tu penché vers les scènes où dominent les passions mauvaises? Ton être vacille-t-il entre les sphères du bien et du mal? Je t'ai vu dans le paradis de paix, évoluant parmi les bienheureux, là où les chants s'unissent, où les hymnes s'élèvent en mélodies toujours plus douces. Je t'ai observé flottant dans l'air ténébreux, seul et sans moi. Puis je fus témoin de ta chute brutale dans le nuage qui recouvre le domaine des créatures viles et méchantes. Ensuite, j'ai vu comme tu observais là chaque mouvement, jusqu'à ce que la vision te submerge et que tu tombes sous son fardeau. J'ai entendu quand tu as crié au secours vers Dieu ou vers un ange qui ait la bonté de venir à ton aide. Retiens cette instruction. Celui dont le cœur n'est pas établi dans la vérité, dont la nature n'est pas sous le contrôle de la loi de l'amour saint, est exposé à l'influence de séduction du mal, car il n'y a aucune sécurité pour l'âme qui n'est pas née de la bonté de Dieu. Celui qui n'a pas cette position est moralement exposé aux influences qui l'attirent vers les ténèbres du dehors. Rappelle-toi que celui qui souhaite être disciple de la vérité et qui désire entrer dans le repos doit se refuser le plaisir de suivre les penchants impurs de son cœur pécheur, attaché à ce qui l'inspire par le respect de Dieu, ni le désir d'être trouvé faisant sa volonté. Il doit donc orienter les attributs de sa personnalité en s'exerçant à faire le bien, car ainsi et ainsi seulement, il pourra s'assurer par la grâce divine le bonheur éternel. Mariatta, c'est dans un très sage dessein qu'il t'a été permis de voir toutes ces choses et que ta perception spirituelle a été éveillée. Tu as été une représentation de l'instabilité des esprits humains quand ils ne sont pas fondés sur la vérité. Tu as été attiré vers le paradis, puis de là vers les régions inhabitées où règne en monarque absolu le chaos et la nuit. Ensuite, vers les scènes de détresse parmi ceux dont le caractère a été formé par le mal qu'ils ont toléré, oui, par le plaisir à le pratiquer au point que dans leur capacité à mal agir, ils soient comme saoulés par l'excès du vice et entrent enfin en délire sous la domination des plaisirs hallucinants. Pour finir, les éléments du mal opèrent sans plus aucun contrôle et l'âme, rendue consciente de la nature des fausses influences, elle réalise la tendance et les effets du péché. Ainsi est-il révélé que l'esprit déchu, livré à lui-même, s'avance comme fou sous l'influence insatiable du mal et par un besoin irrésistible d'association. Les esprits s'activent à aggraver le malheur les uns des autres. C'est ainsi que dans la vaste arène, on les voyait se faire souffrir mutuellement. Ainsi en est-il dans le monde des mortels, où le pouvoir du péché est amplifié proportionnellement au nombre des esprits qui cèdent à ses appétits. Ainsi, un homme qui fait le mal en entraîne un autre dans ses mauvaises voies. On voit par là comment un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Le péché ajoute au péché, élargit sa capacité et accroît sa domination jusqu'à ce que des familles, des tribus, des nations se mettent en armes pour se battre sous sa coupe. Oh ! Si seulement les mortels connaissaient le pouvoir d'une mauvaise influence, alors poussés par la loi de l'amour céleste, l'esprit de la grâce, ils s'uniraient pour empêcher ces ravages dans les cœurs de chair. Marietta, on peut véritablement inscrire le mot « malheur » sur la voûte qui entoure la race humaine, car à cause de leur indulgence face au péché, ils empoisonnent leur existence et trop souvent entrent dans le monde des esprits inclinés vers le mal. Oui, à cause de cela, ils rejoignent ceux en qui dominent les éléments semblables. Tandis que si l'on permet à la grâce de Dieu de pénétrer dans son entendement et ses affections, elle change le caractère et les inclinations, puisque la vie divine, descendant dans l'âme, en attire les affections vers sa source. Alors, ces âmes-là, en arrivant ici, se mêlent par la loi de la sainte attraction à l'atmosphère porteuse de vie et reçoivent de Dieu le souffle de la sainteté, un esprit toujours croissant vers les accomplissements divins. Marietta, voici donc la cité où tu as vu les nurseries enfantines, à laquelle, après tes visions de tristesse et de mort, il t'est permis de revenir de cette position au-dessus du dôme central. Tu peux contempler l'ordre et l'activité de ce temple d'éducation. Là sont réunies les écoles du paradis des enfants, et c'est là qu'ils ont instruit pour atteindre un plus haut degré de vie utile. Alors l'esprit cessa de parler, et soudain le vaste dôme apparut en dessous de nous, de telle sorte que d'un seul regard, je pus contempler sa gloire et sa splendeur. Là, j'ai vu réunis. Là, oui, là, toute la grandeur, la richesse, la variété et l'ordre du paradis entier. De nouveau, j'aperçus au centre la croix. La croix avec autour d'elle 12 esprits tenant dans leurs mains une croix plus petite. Chaque enfant semblait attendre les directives de la part des 12 esprits autour de la croix. Leur attention était fixée sur eux. Oh, le silence qui régnait! Quelle bénédiction! Ils mettaient en relief l'ordre parfait de la divine harmonie de ce lieu. Chers amis, ces témoignages sous forme d'études vont encore continuer un moment. Ensuite, nous continuerons d'une façon encore plus approfondie en nous appuyant uniquement sur la sainte parole de Dieu. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Chers amis, je dois vous avouer que je ne pourrai jamais faire ce que je viens de faire sans l'Esprit Saint qui m'aide, pas seulement qui m'aide, car je demande au Seigneur que l'Esprit Saint se saisisse de mon être tout entier, âme, esprit et corps, pour arriver à faire ce travail, même à l'âge de 88 ans. Et bien que après bronchite, angine, pneumonie infectieuse, et j'en passe, avec malheureusement des soins pas adéquats, on s'est trompé de comment est-ce qu'on appelle ça, toutes ces antibiotiques, on s'est trompé, mais c'est pas de leur faute, personne peut tout savoir, ne sommes-nous pas limités? Eh bien, ma voix était impossible de faire ce que je viens de faire. Seul le Seigneur Jésus-Christ a permis par l'Esprit Saint que je puisse parler avec une voix claire, si possible, audible, si possible, pour transmettre ce que le Seigneur me met dans le cœur de vous transmettre. Il y a plus de 3000 CD à votre disposition. Je n'ai pas Internet, mais c'est la pasteur qui est responsable. Et je crois que ça s'appelle... je sais même plus. Enfin bref, vous trouverez certainement sur Internet... Bible explique CH, quelque chose comme ça. Donc, Bible explique CH. Et avant, il y a trois mots que j'ai oubliés. Oui, le Seigneur est bon. Et l'Esprit Saint voudrait que je vous transmette quelques paroles d'encouragement sur votre route. Voyons cela de plus près. Persévérez sur le chemin du royaume jusqu'à ce que tout ce qui peut survenir, tout ce qui affecte extérieurement votre vie et en un sens la conditionne, n'ébranle plus jamais votre paix intérieure. Faites même de cet entraînement une raison de vous réjouir. Pourquoi se révolter contre ce qui doit vous faire accéder à une égalité d'esprit toujours plus grande, alors qu'on accepte volontiers un entraînement parfois pénible pour se fortifier physiquement? C'est ainsi que bien souvent, les enfants de ce siècle se montrent plus avisés dans leur comportement que les enfants de lumière. Saint Luc, chapitre 16, verset 8. Quels ne seraient pas les étonnants et rapides progrès spirituels des enfants de lumière de Jésus-Christ s'ils consacraient à leur entraînement spirituel et à la formation de leur caractère, tout le soin qu'apportent les enfants de ce siècle à maintenir la santé de leur corps, à le nourrir, à le vêtir et assurer son bien-être. Et pourtant, que vaut après tout la vie physique au regard de la vie spirituelle et de son épanouissement? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 28. Et nous prierons encore ensemble. Oui, le Seigneur vous aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Papa céleste. Yahvé l'Éternel. Seigneur, tu as créé l'homme pour qu'il soit immortel. Et tu l'as fait à l'image de ta propre éternité. Cependant, nous oublions souvent la gloire de notre héritage et nous nous égarons hors du sentier qui mène à la justice, recueillant les fruits amers de son erreur. Mais toi, Seigneur, tu nous as créés pour toi-même et nos cœurs ne trouvent la paix véritable que en toi. Jette un regard de compassion sur toutes nos faiblesses et pardonne toutes nos fautes afin que l'éclat de la lumière éternelle nous remplisse et que nous devenions le miroir immaculé de ta présence et l'image de ta perfection. Que le Dieu Tout-Puissant ait compassion de nous, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux nous accorde le pardon et la rémission de nos péchés. Aujourd'hui, qu'ai-je fait pour les miens, pour le royaume? Aujourd'hui, qu'ai-je appris par la vie, par les livres ou par la prière? Aujourd'hui, ai-je servi Jésus dans la personne des souffrances? Aujourd'hui, ai-je contristé l'esprit de vérité, de pureté et d'humilité et de charité? Seigneur, je te soumets tout ce qui me concerne à ta sainteté et à ta justice. Amen. Et chers amis, si je vous aime, ce qui est vrai, on ne pourra jamais comparer un tel amour, même s'il est hautement sincère, à l'amour incommensurable de Yahvé l'Éternel, notre Papa Céleste, de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, et le Saint-Esprit. Tout le ciel aime ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Et sachez une chose, pour une seule âme, une seule, que vous puissiez amener au Seigneur à un culte ou simplement par la prière. C'est pas moi qui dis la suite. Il paraît que c'est tout le ciel qui se réjouit. En plus, il paraît que beaucoup de péchés vous seront enlevés. Pardonner, ça vaut la peine. Alors, pourquoi pas essayer? À bientôt, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de ces études. Et ça deviendra bientôt très, très, très sérieux. C'est déjà sérieux maintenant, mais le plus beau est à venir. Un peu comme avec tout ce qui se passe dans le monde, si on relate cela avec l'Apocalypse, là c'est le contraire. Là on peut dire le pire est à venir. Que le Seigneur vous bénisse, à bientôt, à demain matin, Dieu voulant. Au revoir.